Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci de l'invitation. C'est vrai que je commence à connaître un certain nombre de gens qui travaillent sur ces questions et c'est un vrai plaisir de travailler avec le mouvement associatif en collaboration parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Ça va me permettre de dire une petite chose préliminaire. On a beaucoup interpellé le politique tout à l'heure. Alors il semble que je prenne la parole en tant que politique, je n'aime pas qu'on dise le politique en général, parce que c'est comme quand on dit la classe politique. Il y a des élus politiques, il y a des partis politiques et qui agissent fort différemment les uns des autres et qui ne portent pas tous les mêmes valeurs. Donc quand on fait qu'on désigne le politique comme adversaire et comme seul interlocuteur, je pense qu'on participe à un discours que je qualifierais volontiers d'assez nauséabond et qui sert le populisme en général. Moi, je suis, depuis 2 ans et demi, une femme politique. Je continue de me battre pour mes valeurs, pour mes engagements et je continue à mener du combat citoyen. C'est pour ça que je suis tout à fait particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a parlé aussi de la question de l'État régulateur. Alors oui, l'État régulateur est en crise en France, mais c'est aussi une volonté politique. Et je pense que c'est particulièrement important de le dire en ce moment, où on a l'impression qu'une espèce de chape de plomb nous tombe dessus et qu'on ne peut rien faire. Alors moi, je me bats, je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui se battent contre cette image-là, tant de la politique que de l'État. Je pense qu'il y a des questions de volonté politique, d'alternative politique, et qu'il faut qu'on arrive à se battre tous ensemble par rapport à ça. Alors, quelques précisions sur les Roms en Europe. Qui sont-ils? Alors tout d'abord, je vais faire tomber un tabou, parce que quand on parle des politiques européennes vis-à-vis des Roms, on ne distingue pas les nationaux et les autres. Ça n'a pas de sens. Les Roms, c'est tous ceux qui appartiennent, qui se revendiquent d'une espèce de culture commune. Il n'y a pas les gens du voyage d'un côté et les Roms de l'autre, surtout pas les Roms d'Europe de l'Est. Il y a, je vais dire, la communauté. En fait, je devrais dire les communautés Roms parce qu'on sait qu'elles sont diverses. Et puis l'autre tabou, il faudrait qu'on arrête quand même de parler des gens du voyage alors qu'on sait pertinemment que la majorité de ces populations, même quand elles désignent des Français, sont quand même de plus en plus sédentarisées. Donc je pense qu'il faut que nous fassions nous-mêmes attention à notre vocabulaire par rapport à ces populations. Alors les politiques européennes, elles concernent l'ensemble de ces communautés roms. Pourquoi l'Union européenne s'intéresse à ces questions? Pour une raison très simple. Ils sont effectivement, ça a été dit, 10 à 12 millions de Roms à vivre dans l'Union européenne. C'est la plus importante minorité culturelle. C'est aussi celle qui est la plus vulnérable, celle qui est le plus victime partout à travers l'Europe de discrimination. Parce que les discriminations à l'Europe, avec des degrés d'intensité variables selon les États, elles existent dans tous les États de l'Union européenne. Je dis à des degrés variables parce qu'effectivement, dans certains États, ça va jusqu'au crime raciste, en toute impunité, pas tout à fait, mais en relative impunité. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire, parce que ça explique aussi la fuite d'un certain nombre de Roms venant notamment des anciens pays de l'Est. En 2010, l'Agence pour les droits fondamentaux, l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, a fait un sondage auprès des populations roms. Et qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'en moyenne, ils étaient victimes de 4 agressions au cours de l'année par an, qu'ils étaient en moyenne victimes de 4 agressions par an, sous des formes diverses, là encore. Mais dans le sondage qui a été fait, 4 agressions en moyenne pour chaque homme. Ils étaient plus de 65% à dire qu'ils n'avaient pas confiance dans l'application des lois et dans le fonctionnement de la justice, et donc qu'ils n'allaient que très rarement porter plainte quand ils étaient agressés. Je pense que ces éléments-là sont aussi importants pour avoir une vision d'ensemble. Ça a déjà été dit aussi, il faut rappeler, qu'ils sont pour l'essentiel citoyens européens, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits que n'importe quel citoyen européen. Alors, ça veut dire que la charte des droits fondamentaux et l'ensemble des normes juridiques, la charte des droits fondamentaux, pardon, par ailleurs, qui est désormais une norme juridique contraignante, du moins en théorie, parce que dans les faits, il y a beaucoup à faire, j'y reviendrai, doit s'appliquer à eux comme à tous les autres. J'ajouterai même d'ailleurs que, citoyen européen ou pas, la charte des droits fondamentaux doit s'appliquer d'ailleurs. Depuis 2007, et c'est vrai beaucoup à l'initiative du Parlement européen, l'Union a rendu plus visible cette question et les politiques en la matière et a dégagé d'importants moyens financiers. Les événements de l'été 2010, ce qu'il est convenu d'appeler le discours de Grenoble, mais je mettrai ça entre guillemets puisque je suis aussi élue de Grenoble et que les grenoblois n'aiment pas bien qu'on parle du discours de Grenoble parce qu'ils ne sont pas responsables des propos qui ont été tenus par notre président de la République dans cette ville. Donc les événements de l'été 2010 ont braqué les projecteurs sur la France et on serait bien passé de cela, mais je vais plutôt vous en donner les effets positifs. Le Parlement européen a une fois réagi très vite, dès septembre 2010, en condamnant l'attitude de la France, mais en remettant cette problématique dans une problématique européenne. Alors le Parlement européen a condamné l'attitude de la France, il ne l'a pas fait pour des raisons de politique politicienne, parce que je voudrais rappeler ici que la résolution du Parlement européen a été adoptée avec plus de 80 voix de majorité, que dans ce Parlement européen, il y a une majorité, je le dis court, de droite. Donc s'il y a eu 80 députés de majorité, ça veut dire qu'une partie de la droite a voté la résolution du Parlement européen. Donc ce n'était pas une résolution de politique politicienne, c'était une résolution qui était au contraire très bien appuyée sur les questions de droit européen et sur la nécessité de respecter le droit en la matière. Mais ces événements ont permis quand même de révéler la situation, de remettre un peu un coup de projecteur sur ces situations-là. Et comme notre président de la République et ses ministres ont particulièrement mal réagi, Madame Reding s'est particulièrement sentie prise au vif et a été amenée à dire un certain nombre de choses. Et donc, c'est sur cette base-là qu'a été proposée la stratégie européenne en faveur de l'intégration des Roms. Devenu d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le cadre européen pour les stratégies nationales. Hein, on a changé, après le passage en Conseil des ministres, on a changé de vocabulaire, et ce n'est pas un hasard parce que c'est à chaque État membre de mettre en œuvre cette soi-disant stratégie. Et nombre d'États ont déjà dit, enfin non, pas nombre, quelques États ont déjà dit qu'ils ne mettraient pas en œuvre cette stratégie nationale. Cette stratégie européenne a été assez largement approuvée par le Parlement européen autour des questions prioritaires, et je pense que ce n'est pas un hasard, qui ont été celles abordées par vos ateliers ce matin. Éducation, emploi, logement, santé, c'est les quatre grands axes des stratégies nationales. Et nous sommes dans ces domaines-là, sur des domaines qui dépendent strictement des États membres. L'Union européenne ne peut pas intervenir à la place des États. Elle met en œuvre, elle propose des financements, mais elle ne peut pas intervenir à la place des États. Et je trouve, je ne suis pas la seule d'ailleurs, que la Commission en la matière est pour le moins timide pour demander des comptes aux États membres et pour vérifier les éléments qui lui sont transmis par les États membres. Avec nombre de mes collègues, y compris d'autres groupes, nous souhaiterions vivement que la Commission ait la même diligence en ce domaine qu'elle est capable de l'avoir en matière économique quand il s'agit de condamner, de rétablir le fameux principe de la libre concurrence. Il s'agit là de rétablir l'égalité de droit. Il me semble que c'est tout aussi important dans le cadre de l'Europe que nous souhaitons porter. Alors oui, j'ai à différentes reprises saisi Madame Reding des situations de grave discrimination qu'un certain nombre d'entre vous d'ailleurs m'avaient transmises, et à chaque fois Madame Reding me répond de la même façon: le gouvernement français me dit que. Alors c'est bien, le gouvernement français me dit que, mais vous savez bien en la matière que quand on dit tout va bien, notamment depuis que la France a enfin transposé la directive sur la libre circulation, tout ne va pas bien. Parce que transposition ou pas transposition de la libre circulation, la situation des Roms ne s'est pas améliorée depuis le mois de mars dernier. Et Madame Reding me dit d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé d'aller lui parler directement, qu'elle a les éléments, mais qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas les utiliser. Je trouve tout cela pour le moins dommage et quelquefois un peu incohérent. J'ai voté contre le traité de Lisbonne, presque je vous ai dit tout à l'heure, ça ne vous étonnera pas. Je ne regrette rien face aux événements que nous voyons en ce moment aujourd'hui et qui nous donnent malheureusement raison. Mais je pense que nombre de gens ont cru très sincèrement qu'en votant pour le traité de Lisbonne, on pourrait construire une Europe plus sociale et que la question de la mise en œuvre des droits fondamentaux était une question positive. Je pense qu'il faut agir en la matière pour qu'il y ait moins de contradictions, y compris pour redonner confiance à un certain nombre de citoyens européens, parce que ces questions-là, c'est moins une question de financement qu'une question de regard sur l'autre. C'est une question de volonté de mise en œuvre. Et les États n'ont pas besoin d'autant d'argent. Ce ne sont pas des politiques budgétivores. C'est pas vrai. Il y a des politiques qui coûtent beaucoup plus cher que ça. En plus, les financements européens existent. Donc, on ne pourrait, là en la matière, faire un peu preuve d'exemplarité. Et malheureusement, il n'en est pas le cas. Parce que oui, de nombreuses lignes de financement existent au niveau européen. Les politiques traditionnelles de l'État de l'Union européenne en matière d'éducation, de culture, peuvent servir à financer des projets pour les Roms. Et tous les fonds structurels, qu'il s'agisse du Fonds social européen, qu'il s'agisse du FEDER, le Fonds européen de développement régional, je ne sais jamais les ou le FEADER sur l'aménagement rural. Nous avons même au Parlement européen demandé des crédits et obtenu des crédits supplémentaires en matière de logement dans le cadre du FEDER. Mais en France, nous avons un problème particulier en la matière. C'est que l'État soit ou non partie prenante du projet, tout passe par les préfets de région. Et les préfets de région ne voient pas ces politiques, je vais le dire comme ça, gentiment. J'ai fait ma petite enquête l'année dernière sur la question du Fonds social européen. Et j'ai trouvé là la réponse officielle de la France sur l'utilisation du Fonds social européen. Qu'est-ce que j'ai vu? Que la France disait qu'elle avait consacré très peu de financement à ces questions-là parce que les Roms en France bénéficiaient des dispositifs de droit commun. Je vous laisse apprécier. Et il n'y a eu que 22 projets financés officiellement sur les fonds européens, dont 3 seulement concernaient les Roms, les autres, je reprends le vocabulaire français, les autres étant destinés à des gens du voyage. Les 3 projets en question sont 3 projets de village d'insertion en Seine-Saint-Denis. Vous savez sans doute que ces projets-là sont en plus des projets qui donnent lieu à quelques polémiques sur la façon d'être mis en œuvre. On pourrait en rire si les conséquences n'étaient pas aussi dramatiques. Par ailleurs, il ne faut pas être dupe de la façon dont d'autres États membres utilisent les fonds européens. Ma prédécessrice, si je puis dire ainsi, vous a expliqué ce qu'il en était. Elle l'a dit gentiment d'ailleurs et à mots couverts de l'utilisation des fonds en Roumanie, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. On sait comment les fonds, la Commission sait que les fonds arrivent dans ces États, et on sait qu'ils n'arrivent quasiment pas ou presque pas auprès des Roms. Donc il y a nécessité en la matière de faire une véritable enquête sur l'utilisation des financements européens. Ce travail, grâce à Nicolas Sarkozy, a été commencé. Madame Reding a mis en place une task force qui est spécialement chargée de cette problématique de l'utilisation des fonds européens. Et nous essayons au niveau du Parlement européen de mobiliser un petit peu les choses, de pousser un petit peu les fers au feu pour que les choses avancent et qu'on ne se contente pas toujours de la réponse des États, parce que ce n'est pas une réponse satisfaisante. Deux autres choses que j'ai pris en route et sur lesquelles je voulais vous alerter. La question de la représentation. C'était une vraie question. Pourquoi les Roms, comment associer les Roms, pourquoi les Roms? Ça ne fait pas partie de la culture des Roms de créer des associations de représentation. C'est un fait. C'est pas leur mode de penser, c'est pas leur mode d'agir. Le meilleur moyen de travailler avec les populations Roms, c'est pas d'inventer, parce que c'est ce qu'essaye de faire l'Union européenne, des associations montées de toutes pièces, parce qu'on sait quelles sont les dérives possibles quand on monte des associations de toutes pièces, mais de travailler au plus proche des besoins de ces populations-là. Et ça, vous êtes bien placés pour savoir qu'elles sont assez faciles à identifier quand les pouvoirs publics ont vraiment envie de faire quelque chose. C'est pas en créant des fausses structures de représentation, ou fausses ou pas d'ailleurs, mais c'est pas comme ça qu'on peut véritablement avancer. Et puis, autre élément, cette fameuse question des dispositions transitoires. Malheureusement, le Parlement européen vient de revoter le fait que la Hongrie et la Roumanie ne devaient pas rentrer dans l'espace Schengen, avec des arguments honteux, de mon point de vue, puisqu'on a demandé à la Hongrie et la Roumanie de faire preuve de beaucoup de démontrer beaucoup de choses concernant le contrôle de leurs frontières, puisque la question qui est, c'est le contrôle des frontières. On les a accusés de tous les maux, alors qu'il y a, en 2005, au moment de l'entrée de l'ensemble des anciens pays de l'Est, on a été beaucoup moins regardant, et on sait très bien que ça pose des problèmes aujourd'hui. Et derrière ce refus de l'entrée de la Roumanie et de la Hongrie, il y a effectivement la position de la France qui, pour des raisons de pure politique politicienne, refuse d'ouvrir l'espace, sachant très bien que ça ne changera rien à la question du transit des Roms, puisqu'ils ont désormais la libre circulation, que c'est un fait, j'ai pas la peine de développer en la matière. Alors moi, je me dis souvent que l'Union européenne, elle est capable du meilleur et du pire. En ce moment, malheureusement, on voit plutôt le pire. Mais néanmoins, je pense que nous sommes toujours dans cette partie du monde, cette région du monde, au sens supranational du terme, dans la partie la plus riche du monde. Quoi qu'en dise un certain nombre de nos gouvernants aujourd'hui, la richesse des pays de l'Union européenne n'a pas diminué ces dernières années. C'est pas vrai. Hein? Cette richesse, elle est toujours là. Mais les écarts entre les plus riches et les plus pauvres à l'intérieur de cet espace-là ne cessent de s'accroître. Quand on regarde le dernier décile de la population la plus riche et qu'on regarde à l'intérieur de ce dernier décile, plus on monte, si je puis me permettre, et plus la croissance de la richesse est importante. Quand on arrive dans le 0,01%, les revenus de ces gens-là ont augmenté de 33%. 33%. Et vous êtes bien placés, vous qui êtes pour l'essentiel des travailleurs sociaux, pour savoir ce qu'il en est dans les catégories les plus paupérisées qui, au contraire, s'en prennent plein la tête. Et les Roms ne sont pas autre chose qu'un exutoire, qu'un bouc émissaire par rapport à ces politiques-là, et pour moi, c'est totalement insupportable. Alors, je pense qu'on peut néanmoins agir. Et notamment au Parlement européen, je pense que nous faisons plutôt sur ces questions-là un excellent travail au-delà des questions politiques, comme je vous l'expliquais sur la question de la majorité que nous avons pu trouver en septembre dernier. Moi, j'aimerais que les déclarations des droits de l'homme, la déclaration universelle, notamment la charte des droits fondamentaux, soient vraiment des textes qui soient pris au sérieux, qu'on les, maintenant qu'elles sont dans le droit dur européen, qu'on les applique véritablement. Parce que les populations les plus paupérisées, et les Roms en sont une illustration parmi d'autres malheureusement, ont droit, effectivement, notamment en période de crise, à ce qu'on se préoccupe véritablement d'elles. Et donc, je crois aussi... Je prends mon papier et en même temps, j'arrête pas de faire des digressions, donc je... Donc, oui, je crois qu'on peut tous se mobiliser ensemble pour faire avancer ces questions. Nous allons bientôt... Quand je dis non, je nous mets tous dans le sac de l'Union européenne, adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Ça permettra de donner un certain nombre de nouveaux outils juridiques qui permettront d'agir non seulement auprès de la Cour de Luxembourg, qui est la Cour de l'Union européenne, mais auprès de la Cour de Strasbourg, qui a une sensibilité plus forte en matière des droits de l'homme. Et un des effets, je suis rapporteur fictif sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, un des effets collatéraux positifs de cette adhésion, c'est que les juges de Luxembourg sont de plus en plus préoccupés par ces questions des droits de l'homme, parce qu'ils ne veulent surtout pas se faire déjuger le moment venu par la Cour de Strasbourg. Donc il y a des mouvements positifs. Alors oui, je vais renouveler l'appel que j'ai déjà lancé X fois. Je suis preneuse de tout témoignage, et notamment de témoignages d'élus, inciter les élus à témoigner auprès de la Commission européenne pour faire part des situations auxquelles les Roms sont confrontés en France, qu'on n'ait pas, comme ça l'a été dit tout à l'heure, des expulsions sans le moindre arrêté de reconduite à la frontière, qu'au minimum la France, qui n'arrête pas de dire à la Commission européenne qu'elle respecte le droit, fasse ce qu'elle dit, à tout le moins. Et si nous arrivons tous ensemble à faire progresser ça, je suis assez partisane, c'est un des intervenants tout à l'heure qui le dit, qu'on l'on construise une Union européenne à partir des Roms, parce que ce serait une Union européenne à partir des droits des plus vulnérables, et je crois que c'est comme ça que nous pouvons progresser vers une Europe qui aurait un autre genre. Je vous remercie encore de l'invitation, je vous remercie de votre attention.